Parce que qui dit autorité, exercice de l'autorité, forcément dit exercice, dit prise, prendre des décisions. Et donc, c'est ce que je vais dire est vrai dans la vie professionnelle, mais ce que je vais dire aussi est vrai dans votre vie personnelle. Et on voit bien que cette autorité, cet exercice de l'autorité, ben voilà, demande un vrai travail de l'intelligence. Ce qui gouverne la prise de décision, c'est une des vertus cardinales. Vous connaissez les quatre vertus cardinales. Hein, je ne vous ferai pas l'offense de vous demander les quatre vertus, parce que tellement c'est évident. Mais donc la prudence, la justice, la force et la tempérance, au cas où. C'est la prudence qui gère, en tout cas qui guide l'agir. Hein, la mission de la prudence, c'est mettre de l'intelligence dans l'agir, dans l'action. Hein, la prudence, on confond prudent, on pense que peut être prudent, c'est appuyer sur le frein. Mais ça peut être très imprudent d'appuyer sur le frein dans certains cas. Hein, c'est bon ? Prudence, tempérance, justice et force. Hein, prudence, tempérance, justice et force. Les théologales, ça vous les connaissez, foi, espérance, charité. Mais les cardinales, ce sont les vertus humaines. C'est intéressant de savoir que la vertu, elle est, comment est-ce qu'on la définit? C'est une force, vir, virtutis, c'est force en latin. Donc c'est une force permanente, c'est une disposition permanente acquise par la répétition des actes, la vertu. Alors, ça peut un peu moins, le mot fait un petit peu, ça ne sonne pas très bien comme ça. Mais on peut dire, voilà, une disposition permanente, une manière d'agir, une manière de faire, une force intérieure, on pourrait dire ça comme ça, parce que maintenant, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Mais la prudence, donc, c'est la raison droite dans l'agir, mettre de la raison dans l'agir. Il y a trois actes de la vertu de prudence, c'est-à-dire trois étapes de la vertu de prudence. La vertu de prudence vise l'action. Ça, c'est très important. La vertu de prudence, c'est pas de l'inaction. Donc, il y a trois étapes dans la prise de décision, trois étapes dans les actions. Premièrement, la délibération. Et la délibération, c'est très important. C'est quoi? C'est ce discours intérieur qui fait que si on se dit à soi-même pourquoi on prend la décision. Pourquoi on prend cette décision plutôt qu'une autre? On a vu les différentes possibilités. Et donc cette délibération qui va faire que je me dis à moi-même le pourquoi de telle décision. Je me dis à moi-même, c'est ce discours intérieur, hein, un peu comme quand vous allez demander une augmentation quand vous allez faire votre déclaration d'amour, vous vous dites à vous-même qu'est-ce que je vais dire. Et s'il me dit ça, qu'est-ce que je dis? Et vous voyez ce que je vais dire? C'est ce discours intérieur, la délibération. C'est très important la délibération, parce que la délibération, c'est on se remet face à la finalité. Le pourquoi, c'est sur le pourquoi. Alors qu'on passe beaucoup de temps sur le comment. Et comme je vous l'ai dit hier, le fait de gouverner, c'est prévoir. Et donc gouverner, c'est d'abord se poser les questions du pourquoi, de où on va, la direction, de la vision. Donc délibération. Ça veut dire aussi des libérations qu'on ne se laisse pas contraindre ou gouverner uniquement par l'émotion. Parce que ce qui se passe, on n'est pas fait que de bois, donc il se passe souvent qu'on se laisse guider par l'émotion, c'est-à-dire qu'une émotion joyeuse comme une émotion agaçante. Ah, celui-là il m'agace, etc., je vais prendre telle décision. Ou alors celui-là, il est super sympa, voilà. Comme si c'était quelque chose de spontané. Et c'est pas l'émotion qui doit guider la décision. C'est de se remettre face au pourquoi de la chose, c'est mettre de la raison là-dedans, de l'intelligence là-dedans. Pourquoi c'est pas l'émotion? Parce que si on guide à coup d'émotion, eh bien les émotions, on sait bien, elles vont de droite et de gauche, c'est-à-dire elles sont tantôt complètement enthousiastes, tantôt complètement dans le fond du trou. Tantôt elle nous pousse de l'avant optimiste, tantôt pessimiste, etc. Donc, et on voit bien des personnes qui guident à coup d'émotion, et donc à coup d'intuition, à coup de, vous voyez, c'est épuisant parce qu'on nous dit une chose, puis ensuite le lendemain, le contraire de la chose, parce que, voilà, ils n'ont pas assez réfléchi à où est-ce qu'ils voulaient aller. Ils ont pas eu ce discours intérieur. Hein. Et c'est important, c'est l'intelligence qui nous donne ça, c'est le pourquoi des choses. Hein, et pourquoi je prends, pourquoi je change de travail, pourquoi je reste dans ce travail, pourquoi je... Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque part pour nous chrétiens, une certaine dimension de vie cachée, c'est-à-dire de vie de silence. Celui qui gouverne doit avoir des temps de silence. Justement parce que ce qu'il a est plus... La charge est importante, plus le poste est important, plus la dimension de silence et de solitude doit être importante. Pour justement faire cet exercice-ci. Parce que si vous passez en permanence d'une action à une autre, vous enchaînez les rendez-vous, vous enchaînez, etc., comment est-ce que vous aurez eu le temps de la délibération? Et vous serez à un moment donné face au mur à prendre la décision, dans la précipitation, dans l'angoisse, ou dans l'extase, je ne sais pas quoi, bon, et puis ce ne sera pas forcément la bonne. Donc délibération, c'est très très important, délibération. Deuxième étape, c'est le conseil. Le conseil qui est une étape importante, c'est-à-dire que et plus les décisions à prendre sont importantes, plus il faut demander conseil. Et quand on est jeune, comme vous l'êtes, jeunes et beaux, et belles, eh bien, on a souvent tendance à zapper cet aspect-là des choses. On pense à quelque chose, on voit que c'est bien, parce qu'on voit que c'est un bien, forcément. Hein, tout de suite, on y va. Mais, je pense pour les décisions importantes, on passe pas par l'étape conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Et dans cette étape conseil... ça peut être un conseil professionnel, ce qu'on appelle au fond le coaching, hein, le coaching qui est ni plus ni moins une version laïque de l'accompagnement spirituel. Mais pour nous en tout cas chrétiens, hommes et femmes de foi, l'accompagnateur spirituel va être celui qui nous aide à réfléchir dans la décision à prendre. J'entends les grandes décisions, parce qu'il ne faut pas non plus... 36 ans pour choisir entre un pain au raisin et un pain au chocolat. Je veux dire, il n'y a pas exercé la vertu de prudence. Sinon, on ne fait plus rien dans la vie. Mais des grandes décisions, et du coup, voilà. Et le conseil, qu'est-ce qu'il vient? Il vient éclairer... Le conseiller vient éclairer l'intelligence du décideur pour lui donner peut-être d'autres options possibles auxquelles il n'avait pas pensé. C'est ça l'intérêt du conseil. C'est simplement, c'est pas à lui de prendre, comme on dit, les conseillers sont pas les payeurs. C'est tout à fait juste. C'est pas à lui de prendre la décision, mais il vient éclairer l'intelligence du décideur. Ça veut dire aussi prendre conseil de personnes qui sont aptes à vous conseiller. Combien se confessent avec leur coiffeuse, par exemple. Et alors, peut se confesser avec sa coiffeuse, si ce n'est qu'on n'aura jamais l'absolution. Mais combien se confient à leur boucher ou à leur médecin? Par exemple, les médecins, c'est les grands confesseurs aujourd'hui. Plus personne ne va voir les curés, mais on raconte sa vie au médecin et au notaire. Un notaire que je rencontrais il n'y a pas si longtemps disait « Mon père, mais pourquoi est-ce que vous ne confessez plus? Je passe mon temps à confesser dans mon étude. » Je lui dis « Oui, mais vous ne donnez pas l'absolution. » Donc du coup, et c'est vrai, parce que les gens ont besoin de parler. Et c'est vrai que le fait, la vie, le confessionnal était un lieu aussi de... Donc c'est important aussi d'avoir... ce conseil d'une personne qui est apte à nous conseiller. Qui est apte à nous conseiller? Ça veut dire une personne référente. Et la personne peut être différente, ça c'est le bon sens, suivant qu'il s'agisse d'un aspect spirituel, d'un aspect professionnel, d'un aspect relation amoureuse, ou que sais-je, ou matrimonial, décision, voilà, ou financier. Là aussi, bien souvent, on passe tout de suite de la délibération à l'action, qui est la troisième étape, sans prendre conseil. Ou alors, vous voyez des gens qui sans cesse demandent conseil. Ah, ils vont voir un père. Ah, mon père, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben, le prêtre, ben, voilà, avec ce qu'on lui donne, il donne un peu son opinion. Et puis, on voit un deuxième. Et un troisième. Du coup, ce qui fait qu'il y a une confusion dans la tête de celui qui ou celle qui l'a décidé, parce que forcément, chacun a son opinion. Et c'est là où il y a intervient un aspect psychologique dans la prise de décision, c'est que il y a souvent les questions psychologiques et en particulier le manque de confiance en soi qui fait qu'on va avoir cette incertitude, hein, cette insécurité, on est insécure. Du coup, on veut toujours demander à l'autre comme se sécuriser. Et en fait, on est encore plus embêté parce qu'on a encore plus de chemin qui s'ouvre. Donc, c'est important que quand on est dans dans cette dynamique-là, il y a des personnes qui ont très peu de confiance en elles. Et c'est vrai que quand on est jeune, en général, on a peu confiance en soi, en général. Hein, parce que c'est normal, parce qu'on n'a pas l'expérience. Mais du coup, fiez-vous à une personne. Hein, et essayez de prendre un chemin. Et puis, l'avantage, en tout cas dans l'Église catholique, c'est que les chemins spirituels, ou l'accompagnement spirituel, c'est quelque chose de balisé. C'est quelque chose de connu. On ne va pas vous envoyer dans les mains d'un gourou ou d'un type qui va vous demander de se sortir le carnet de chèques toutes les deux minutes. Hein, parce que le coaching, c'est bien, mais il faut sortir beaucoup de cartes bleues. Donc du coup, là, au contraire, dans l'Église, je trouve qu'il y a une grâce d'accompagnement des personnes et d'accompagnement de la décision des personnes. Donc, prenez une personne qui vous guide et ça, c'est vrai au travail, mais c'est vrai pour tout. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour tout. Toutes vos vies, votre vie amoureuse, votre vie décision familiale, amicale, pour les sous, pour la vie professionnelle, pour la vie spirituelle, pour répondre à un appel du Seigneur, d'aider la paroisse de telle chose. Voilà, c'est vrai pour tout. Quel est le conseil que je demande et à qui je demande conseil? Donc voilà, j'ai délibéré, j'ai pris conseil, et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle en latin l'imperium, c'est-à-dire le passage à l'acte. J'agis. La prudence a comme finalité d'agir. Et donc, celui qui est en autorité et qui n'agit pas, ça c'est vraiment l'abomination de la désolation. Parce que quelqu'un, justement, c'est quelqu'un qui... On en a parlé un petit peu hier, mais on lui demande de prendre des décisions, il ne les prend pas. Pourquoi il ne les prend pas? Parce qu'il a peur. Il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de responsables que vous ne croyez, qui de supérieurs hiérarchiques, qui ont peur de leurs subordonnés. Ils ont peur de la réaction. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Parce qu'ils ne se sont pas mis assez face à la finalité de leur décision et au pourquoi de leur décision. Alors, ça peut tenir aussi à une incertitude personnelle, à émotionnelle aussi, quelque part. Voilà, il y a des gens qui sont angoissés de nature. Mais voilà, quand on est angoissé de nature, il ne faut pas prendre beaucoup de responsabilités. Parce que la responsabilité, même pour ceux qui sont zen, ça les angoisse. Hein, parce que voilà, il faut ça aussi savoir, qu'est-ce que je peux prendre comme responsabilité? Vous êtes à l'aube de votre vie professionnelle, etc. Vous aurez des grandes responsabilités, ça j'en doute pas. Mais qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux assumer? C'est là où il y a une humilité. Et il y a aussi un conseil. En fonction de ma nature, en fonction de mon caractère, il y en a qui sont archi zen, mais voilà, ils peuvent prendre beaucoup de responsabilités, ça les angoisse pas, ils dorment très bien la nuit, etc. D'autres, rien que la responsabilité de deux personnes, les angoisse comme pas possible. Hein, donc, et ça, on choisit pas, malheureusement, sa psychologie. Hein. Donc, à vous de réfléchir à ça. Et donc, le passage à l'acte. Il y a une difficulté dans le passage à l'acte, c'est que des personnes, et ça je l'ai vu, passent à l'acte, mais au fond, sans avoir délibéré, sans avoir pris conseil. Vous voyez, c'est un peu typique de la... C'est sur le coup de cœur, clac, je fais ça, c'est ce qu'on appelle l'achat impulsif, vous voyez. Tout le marketing vise à ça. Le marketing vise à annihiler la vertu de prudence. Fait tout pour que vous agissiez comme ça, sans réfléchir, et que vous sortiez tout de suite la carte bleue. Or, nous pensons qu'au contraire, qu'il y a une réflexion à faire, et donc une personne qui, impulsive, quelque part, un peu choupolée, etc., qui prend des décisions sans même avoir délibéré, sans même avoir pris conscience, du coup, elle prend la décision. Et comme il n'y a pas eu en amont ce travail, une fois la décision prise, forcément elle se retrouve dans une forme d'angoisse, parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle a pris la décision, parce que l'émotion qu'il a portée au moment de la décision n'est peut-être plus là. Vous comprenez? Donc je pense que c'est très important de respecter ces trois choses, délibération, mais en même temps ne pas passer son temps dans la délibération, parce qu'il y en a aussi qui ne font que délibérer. Il n'a pas jamais l'action, conseil et puis action. Hein, et ça, c'est c'est la manière de prendre toute forme de décision. Ça veut dire aussi la part de silence, ça veut dire la part de solitude. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'aurai aussi, face à une décision, des contradictions. Ça, c'est évident. Aucune décision importante n'engendre aucune... aucune décision importante, ou plutôt toutes les décisions importantes, impliquent une contradiction, forcément, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors on voit les personnes, on voit des managers, et ça c'est terrible, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas à délibérer, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils prennent la décision. C'est le dernier qui a parlé, c'est comme le bout de bois qui va sur le courant d'eau, voilà, ça va à droite, il va à droite, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction. Parce que derrière ça, il y a le souci de plaire. Quand vous êtes en responsabilité, il faut renoncer à plaire. Hein, ça, c'est capital. Il faut vraiment, c'est une sorte de travail aussi intérieur. Il faut chercher le bien. Il ne faut pas chercher à plaire. Qu'est-ce qui est le bien pour mon équipe, pour la personne, pour l'entreprise, pour ma famille? Qu'est-ce qui est le bien? Même, et du coup, on peut prendre parfois des décisions qui déplaisent, mais qui, au fond, sont les bonnes décisions. Alors, il faut les expliquer, il faut faire de la pédagogie. Il faut faire de la pédagogie. Et alors, de là arrive un autre aspect de notre méditation, c'est les différentes formes de management. J'en ai parlé un peu hier, un petit peu hier, mais pas tant que ça. Hein. On connaît à peu près d'abord deux grands styles de management, ce qu'on appelle le management directif. Le management directif a un côté rassurant pour beaucoup de salariés, ils apprécient le fait d'être cadrés, de savoir précisément ce qu'ils ont à faire, de se sentir protégé par une hiérarchie, assumant seul les éventuels échecs. Le revers de la médaille du management directif peut chercher à tout contrôler, il délègue difficilement, ne donne pas le droit à l'erreur, n'écoute pas ses collaborateurs. Le management directif peut entraîner une diminution des initiatives individuelles, engendrant souvent la frustration des collaborateurs, qui ont l'impression de n'être plus que des simples numéros. Souvent, le management directif est impopulaire. Et donc, le manager doit être capable de gérer l'isolement, tout en gardant le cap qui est fixé. Donc, c'est une forme de management directif, c'est-à-dire que assez vertical. Et c'est vrai que c'est plus trop à la mode, ce style de management. Ça ne veut pas dire que... Je voulais vous passer une vidéo, mais je pense qu'on n'a pas d'internet ici dans la pièce. Je demande à un cabinet de recrutement, etc., qui interviewait les gens. Quel style vous voulez avoir comme patron? Est-ce que vous voulez avoir un patron copain? Ou est-ce que vous voulez avoir un patron, au fond, peut-être plus distant, que vous voyez, non pas que vous tutoyez? Eh bien, les réponses sont assez intéressantes dans l'immense majorité des cas, en tout cas de ceux qui étaient interrogés, il y avait un peu tout, mais beaucoup préfèrent une certaine distance. Parce que vous savez, la difficulté du management participatif, un peu le patron copain. Le patron copain, voilà, qui veut chercher à plaire, qui veut chercher à séduire, qui veut chercher, voilà, à amener à lui par l'affectif. S'il y a un conflit, et s'il y a une négociation à faire, là, il n'y aura plus d'affectifs. Il y aura le patron et le salarié. Et je crois que c'est important que pour vous, vous puissiez savoir que... alors, chaque forme de management a une difficulté, mais le management directif... et encore, ce n'est pas tout l'un et tout l'autre, hein, je pense que c'est... Il n'est pas interdit d'être directif tout en consultant, par exemple, en demandant conseil. Demander conseil à des personnes quand on est manager, c'est très important, c'est les valoriser aussi. Hein. Mais le management directif, je trouve que c'est moins source de culpabilité pour les subalternes. Parce que justement, on sait qu'il y en a un qui prend la décision et un qui l'assume. Et que si c'est l'échec, c'est lui qui paiera. Aujourd'hui, plus personne veut prendre de décision, tout le monde ouvre les parapluies. Tout le monde ouvre le parapluie de partout. Plus personne. Qui va payer s'il y a un problème? Hein, nous avons eu la médecine du travail ici à l'abbaye il y a 15 jours. L'infirmière, c'était une infirmière. Il y a tout un questionnaire, mais très bien, très sympathique. Là, hop, hop, hop. Là. Et on a un cuisinier, une cuisinière, ça. Est-ce que vous. Deux cuisiniers et deux comptables. Bon. Est-ce que vos salariés sont soumis à des risques de chute? Je dis non. Pour moi, chute, c'est celui qui va sur le toit, qui va dans les échafaudages, qui va... là, il y a un vrai risque. Qui prend un harnais, Ah oui, mais ils peuvent glisser. Ah oui, c'est vrai, ils peuvent glisser, oui. Ils peuvent tomber dans l'escalier. Ah ben oui, c'est vrai, ils peuvent tomber dans l'escalier. Donc il y a un risque de chute. Risque de chute. Tout est comme ça, c'est exaspérant. Mais on se protège, ce que j'appelle la mentalité sécuritaire, c'est qu'on veut, personne ne veut porter quelque part une difficulté, et la souffrance qui fait malheureusement partie de la nature humaine, c'est le risque zéro. C'est le risque zéro. Et je crois que de ce côté-là, le management directif, c'est celui qui dit si ça va mal, c'est moi qui paie. Mais on n'en trouve pas beaucoup. C'est le capitaine qui est à la tête de son bateau, qui ne va pas passer le bébé à l'autre. Ah, mais non, c'est machin qui m'a dit. Non, non. S'il y en a un qui est, c'est à moi. S'il y en a un qui a viré, c'est moi. Ça, vous l'entendez très peu. Ce courage. Je vous ai parlé hier dans la petite feuille, je ne sais pas si vous êtes servi un peu de la petite feuille que je vous ai donnée. Où est-ce qu'on en est de la grandeur d'âme? Où est-ce qu'on en est de la grandeur d'âme? Vous voyez, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle l'âme grande, la magna anima, la magnanimité. Où est-ce que vous en êtes dans la magnanimité? Est-ce que vous êtes prête à prendre aussi quelque chose qui est difficile et à l'assumer? Mais il faut réfléchir avant. Il ne faut pas aller au front, au sable au clair, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Hein, ça n'aura aucun sens. Est-ce que je suis prêt moi-même à assumer quelque chose? Et du coup, à payer aussi peut-être les pots cassés, peut-être à le payer aussi de... Alors, c'est pas interdit d'être intelligent, on peut être aussi politique, etc. Mais vous voyez, comme c'est tout dans la nuance, et moi je crois que c'est très important que ce management directif, alors, il faut le matiner un petit peu de participatif. Je vous lis, le management participatif. Avec le management participatif, la flexibilité des effectifs est accrue grâce à l'élargissement des tâches, la capacité des salariés à se remplacer mutuellement. L'autogestion qu'entraîne ce fonctionnement rend également possible des économies de coûts. Hein? Le management participatif est basé sur le dialogue, ce qui est compliqué parce que le dialogue ne se décrète pas, il faut l'organiser. Le discours ne doit pas être que de façade, mais suivi d'actions concrètes. Fixer un objectif individuel, favorisant la démarche participative, encourager concrètement les salariés à partager leurs idées, exploiter véritablement ces idées et communiquer sur cette démarche. Donc c'est intéressant de voir, ce mode de gestion a tendance à mettre en valeur les profils créatifs au détriment des personnalités moins affirmées. De plus, ce management est fondé sur des normes d'équité. Les salariés peuvent alors être plus sensibles aux différences de statut de rémunération, parce que comme c'est participatif, on dit ben pourquoi lui gagner plus, moi je fais ma part du travail. Hein. Ce mode de management demande donc des efforts dans la durée. Hein, donc on voit bien, le management participatif, c'est ce côté collégial. Alors moi, dès que je vois un truc collégial, moi j'y crois, mais collégial, vous savez, c'est la meilleure manière pour que personne soit responsable. C'est collégial. Hein, on peut rien dire.
Après, ce qui peut être collégial, ce sont les avis.
Non, mais je parle de co-décision. Ouais. C'est l'équipe qui a pris la décision. Ouais. Tu peux rien dire. L'équipe a pris la décision. On a vu le conseil, encore une fois, il y a le management qui serait plus directif, mais qui ne demanderait pas conseil, ce serait un manque de prudence, ce serait un manque de management. Parce que justement, dans le management, il y a à prendre conseil et ensuite à prendre la décision. Mais la question, c'est que c'est l'équipe. L'équipe a décidé. L'équipe, c'est tout le monde et personne. Ah, tu es contre l'équipe? Parce que tu es intolérant. Accueille la démocratie. Donc, vous voyez, ce forme de management, là, et c'est un management qui... Alors, c'est très à la mode parce que, justement, personne paye en cas de pot cassé. C'est le consensus, management par le consensus, ça demande beaucoup de travail, etc., etc. Et on voit bien dans l'Église, dans l'Église, il y a exactement les deux formes de management. Vous trouvez des évêques qui seront dans les deux formes. Des évêques qui ne voudront jamais prendre des décisions à l'encontre des diocésains ou des services diocésains, par exemple. Hein? Parce qu'ils veulent manager la chèvre et le chou, ils veulent voilà ceci, cela, ils veulent, voilà. Et pas dire je, quelque part. Donc je pense que c'est... Maintenant, ça dépend aussi beaucoup des personnalités de celui qui gouverne. Hein, et de son leadership, sa capacité de leadership. Et on voit bien que dans chaque forme de management, il y a des failles. Hein, hein, genre le directif, il y a justement la difficulté de peut-être pas tenir en compte les avis, hein, et dans le participatif, d'être toujours dans le consensus, qui fait qu'on perd aussi la ligne de mire, et le pourquoi de où on va, et pourquoi on y va. Et on perd beaucoup de temps, pas la bras. Parce que ça demande beaucoup de temps, pas la bras. Hein, donc... voilà. Chaque mode de management présente donc ses atouts et ses risques. Si la formule magique n'existe pas, c'est l'adaptation que le manager pourra trouver, dans l'adaptation que le manager pourra trouver le bon équilibre. Même dans les organisations très contraintes, la question de la directivité ou de la participation relève en priorité du discernement du manager, de sa capacité à gérer des contextes différents. Et on voit bien que ces deux, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment à l'intérieur de chacun. Et alors il y a des tempéraments qui sont beaucoup plus, voilà. À diriger, leadership, charismatique, on peut dire. Les charismatiques sont typiquement directifs. Directifs avec de l'affectif. C'est ça, c'est que le charisme, les personnes charismatiques, ils essayent aussi de... Oui, méfiez-vous, c'est comment vous dire. De celui aussi qui hein, vous valorise quelque part, mais vous valorise aussi pour vous manipuler. Vous ne laissez pas manipuler. Vous ne laissez pas manipuler. Je pense que c'est très important. Hein? Qui dit, eh ben, on est vraiment potes, et puis toi, moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on est vraiment, etc. Et en fait, il envoie l'autre, justement, l'autre devant, en fait, pour montrer, pour tester quelque part, ben, quelle est la réaction du service. Et, ah ben non, moi, j'ai rien dit, non, c'est une telle qui a parlé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté manipulateur, le côté... Ça, il y en a. Je vous invite à lire un livre qui m'a beaucoup aidé, parce que malheureusement aussi dans l'Église, il y a des manipulateurs. Il y en a deux, les manipulateurs sont parmi nous. Et puis, je ne me rappelle plus l'auteur. Puis une, c'est de Irigoyen. Irigoyen, ça vous dit quelque chose, cet auteur, Irigoyen, sur la manipulation. Hein? Irigoyen, c'est H avec c'est du Pays Basque, Irigoyen, avec un Y. Irigoyen avec YEN. Irigoyen, donc sur les deux livres sur la manipulation qui étaient acquis. Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est très d'actualité. Parce qu'on est dans des. On forme beaucoup des personnalités. Comme on est moins dans cette dimension directive. Vertical, du coup, on passe beaucoup plus par l'affectif et par la manipulation pour arriver à ses fins. Et ça, je crois que. Et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair, que c'est, dites-vous qu'il y a, premièrement, de pas clair. Et puis, deuxièmement, dès qu'une personne arrive dans un service et que le service est divisé, là, vous avez un manipulateur en face de vous. Donc, il faut avoir un radar à manipulateur. Radar porté, je veux dire, embarqué, où vous puissiez. On ne voit pas quand on est jeune. On voit parce qu'on a. Vous êtes. Je vois vos bonnes têtes, vous êtes Bon, comme le pain. Non, mais c'est vrai.
Vous êtes. Bah, ouais. À la fin, je ne peux pas faire grand-chose quand il y a un manipulateur génétique. Quand je l'ai vécu l'année dernière, je me suis viré de l'école à cause de ça. Ouais. Le directeur était un manipulateur de première. Il a viré. L'équipe était hyper soudée. Et il voulait virer les deux nouvelles parce que forcément, on prenait trop de place et puis on prenait des décisions ensemble parce qu'on était une équipe
ouais.
enseignante qui a. Et on s'est fait virer parce que nos postes étaient mis au mouvement automatiquement. Il a tout fait pour qu'on ne revienne pas.
Oui.
On
ne
peut rien faire.
C'est le détecter. Allumer les warnings, c'est tout. Et puis, ce directeur-là a aussi un N+1. N'hésitez pas à aller au Hadwood, voilà, N+1. Parce que parfois on dit oui, mais je vais pas rapporter, etc.
Je
n'en
ai pas sûr à 100% que ce soit.
Ah ben oui, il y a des signes justement dans ces livres-là. Sauf ça. Alors, faut pas devenir parano non plus, parce qu'on dit, ben, on voit les parano. À toute personne s'approche, c'est un manipulateur. Ça, c'est un peu la difficulté de ces livres. Mais vous voyez, il y a des gens qu'on sent bien que quand leur manière d'agir divise et les choses ne sont pas dites ou sont dites par un autre. Vous voyez, c'est très très courant parce que c'est un peu le défaut de notre société actuelle qui n'est plus dans la hiérarchie, qui est plus dans l'affectif. Et donc du coup, fait générer ce style de personnalité. Hein, alors il y a plusieurs manières de soit en s'apitoyant sur l'autre, soit en faisant peur. Vous verrez dans ces livres-là, c'est intéressant parce que il y a pas mal de choses qui sont. Donc, façon manipulateur, le détecter, et puis une autre chose, le manipulateur, s'il voit qu'il n'a plus de prise sur toi, il arrêtera. Il arrêtera. Il continuera tant qu'il aura prise. Mais s'il n'y a plus de prise, passera, spontanément, il va à ceux qui a prise. C'est-à-dire, spontanément, il va aller la personne dont il repère, là aussi, il a un radar. Il repère, ça va marcher. Donc, d'où ce que je vous ai dit hier, toute responsabilité, autorité demande un travail sur soi-même. Ce travail, on le fait avec l'aide du Seigneur, dans la prière, parce que ça révèle peut-être aussi ce désir d'être admiré, ce désir de. Il capte ça. Hein, ce désir d'être reconnu, ce désir d'être mis en avant, ce désir d'être flatté, hein, tout flatteur vit aux dépens hein, de celui qui l'honore, donc on sait bien. Mais ça capte. Donc, qu'est-ce qu'au fond ou alors tout simplement mon manque d'expérience. Et puis on apprend l'expérience un peu à grand coup dans la tête qu'on apprend. Quoi. Donc, mais c'est vrai qu'un manager bien, à mon avis, c'est quelqu'un, en tout cas pour moi, ce serait très important. C'est quelqu'un qui sait prendre les coups et qui n'accuse pas les autres de l'échec de ses propres décisions. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Jésus. Jésus qui est le manager par excellence. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et quand je dis ça, ce n'est pas que je veux faire dans la piété, c'est que Jésus, c'est celui qui justement a accepté de prendre les coups sans les donner, sans les rendre. Pour conduire, pour nous, c'est vraiment pour nous conduire vers le salut. Et je crois que c'est très beau de voir l'exemple de Jésus comme pasteur, comme berger. Hein, parce que le manager, c'est une forme de pasteur aussi, de berger. Il n'a pas regardé à la dépense. Il a eu cette grandeur. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Moi, je trouve ça magnifique. C'est une parole qui me touche beaucoup, ça, dans l'évangile. Justement, c'est pour ça, pourquoi est-ce que Jésus est crédible ? Pour ça. En même temps, c'est important d'expliquer. Je veux dire, vous voyez, ça demande, d'où le conseil, d'expliquer. Mais vous êtes parfois face à des personnes, vous aurez beau, comme dit Jésus, quelqu'un aurait beau ressusciter d'entre les morts, ils ne croiront pas, quoi. Je veux dire, vous aurez beau lui expliquer par rapport au plus B, parce qu'il y a de la jalousie. Il y a le désir de nuire, il y a tout ça, ça fait partie du monde du travail. Hein. Hein alors j'avais vu d'autres choses. Oui, c'est un petit peu pareil. Il y en a qui distinguent non pas entre directif et participatif, mais ils distinguent en quatre formes de management. Le directif, l'explicatif, le délégatif et le participatif. Le directif, il a un comportement rassurant par sa maîtrise de la situation et sa connaissance de l'environnement. Dans quel cas c'est utile ? C'est intéressant de voir quelqu'un. Au fond, quelqu'un qui a un management directif est très important dans des situations d'urgence. Quand il y a urgence, quand la boîte est en train de couler, le navire est en train d'aller vers le fond, il faut quelqu'un qui ait un vrai projet pour l'entreprise et puis qu'il s'y tienne. Et on voit bien dans l'histoire, par exemple, De Gaulle était complètement directif. C'était participation zéro. Parce que c'était aussi les hommes politiques, c'était une période aussi très troublée. Donc peut-être fallait une personne qui, il avait une idée dans la tête, et ne faisait que ce qu'il avait dans la tête. Bon, alors, avec aussi des difficultés, mais... Aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau politique, ça marche beaucoup moins bien. Ça, on est beaucoup dans... Explicatif, deuxième truc, il fait en sorte d'expliquer des décisions dont il garde néanmoins la maîtrise. Il fait en sorte de mobiliser ses collaborateurs, d'écouter leurs avis et suggestions, les encourage à devenir autonomes. Bon. Voilà, il essaye de donner un petit peu de... Voilà, ça, c'est pas le... Celui qui est dans sa tour d'ivoire, il explique aussi le pourquoi. Et je pense que ça, c'est une chose bien aussi. C'est donner du sens, c'est mettre les autres un peu dans le coup, c'est mettre... parce que c'est les autres, le directif, en fait, les autres sont que des exécutants. Du coup, c'est vrai que c'est pas tellement intéressant, quoi. Le délégatif, c'est intéressant, ça. Le délégatif, le style délégatif. Il définit clairement les missions, les responsabilités, puis laisse l'autonomie nécessaire aux collaborateurs. Il intervient uniquement quand cela est nécessaire et à leur demande. Voilà, vous faites hop hop hop, si vous avez un problème, vous m'appelez. C'est l'inverse. Peut-être que c'est utile, ça, quand le manager connaît bien ses collaborateurs, leurs compétences, leurs travers. Il sera alors en mesure de leur laisser suffisamment d'autonomie, mais également de prévenir toute forme de dérive liée à de mauvaises habitudes. Vous voyez, par exemple, ça c'est le délégatif. C'est-à-dire qu'on a en face de soi aussi des personnes qui assurent. C'est-à-dire qu'un système délégatif n'est possible que quand on a des gens responsables en face. Et le participatif, comportement du manager, donc propose des projets d'équipe, incite à la remontée d'informations, aux discussions, il va associer les collaborateurs aux décisions et se préoccuper de leurs engagements, de leur engagement dans les projets. La difficulté, c'est qu'on réduit trop la distance hiérarchique dans ce mode de management. On est tous d'égal à égal, quelque part. C'est le consensus. Au risque de ne plus pouvoir prendre de décision quand il faut trancher. Parce que parfois, y a un conflit. Et là, forcément, il y a un patron et puis il y a un subalterne. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager on pourrait dire beaucoup de choses sur l'exercice de l'autorité dans le milieu du travail. Mais je crois que c'est important parce que ça revoit, au fond, c'est pas seulement le milieu du travail. C'est bien au-delà du travail, c'est bien au-delà de la manière. Et de savoir soi-même, on n'est pas fait pour tous les styles de poste. C'est là, encore une fois, la question d'insister sur le discernement. Pour quel poste je suis fait ? Il y a des postes pour lesquels je ne suis pas fait, même si j'ai la compétence, j'ai des diplômes. Je ne parle pas de question de quoi. J'ai des diplômes et je ne suis pas fait pour ce poste. Vu mon caractère, parce que j'ai trop de caractère, parce que je suis trop un décideur, j'ai trop de leadership, etc. Et qu'au contraire, chacun a été amené à tout prendre en équipe, etc. Par exemple, ben, du coup, je sens que pour ce poste-là, je vais pas être, ça ne va pas être possible. Parce que du coup, ça va être délayé, ça va être... Et puis moi, je vais bouillir intérieurement. Je dis, ben alors, on passe à l'action, ou pas, ou non. Bon. Donc, ça demande un vrai discernement, d'où une connaissance de soi-même. Et donc, une maîtrise de soi-même. Une maîtrise de soi-même, qui est aussi un des fruits du Saint-Esprit. Au fond, ben, je me répète par rapport à ce que je vous ai dit hier, mais la responsabilité nous renvoie une image de ce qui nous sommes. De même la responsabilité des autres. Et si j'ai des difficultés dans l'exercice de la responsabilité ou dans le contact avec celui qui est en face de moi et qui est en responsabilité, dites-vous bien que d'abord vous avez à travailler sur vous-même, au lieu de rejeter la faute. Au lieu de rejeter la faute et de dire c'est lui, c'est... peut-être il y a des fautes, c'est possible. Mais il y a certains qui trouvent la manière, il y a certains qui... Et puis dans le monde du travail, il ne faut pas non plus l'exclure. Il y a des personnes qui ne sont pas à leur place. Et parfois, il faut du courage pour leur dire, bah, écoutez, partez. Et puis on négocie, voilà. Ça, c'est... Maintenant, il y a les ruptures conventionnelles de contrats à durée déterminée, hein, c'est le chômage comme ça. Bon, on négocie. Parce qu'on sent qu'on n'est pas à la place. Donc, il faut aussi avoir ce courage-là, de reconnaître soi-même, d'où moi je trouve ça très bien, par exemple les bilans de compétences, ça, il y a beaucoup, ça c'est pas mal de, ça, c'est une bonne chose de bien, parce que du coup on voit pour quel truc on est fait, on n'est pas fait pour tout, on est fait pas par tout, il y a des managements avec lesquels on est complètement mais en désaccord parce qu'on n'y arriverait pas. Quelqu'un qui a l'habitude d'être commandé, qu'on lui dise un objectif clair, etc., il est dans un management participatif où on passe des heures en palabre pour voir ce qu'on va faire, mais il n'y en peut plus. Donc, d'où discernement, vraiment discernement dans vos choix de professionnel. Parce qu'au fond, c'est des grands choix. Vous savez, il y a trois grands choix à prendre dans la vie. Il y a le choix d'état de vie. Premier grand choix. Deuxièmement, le choix de Dieu dans sa vie. Troisièmement, le choix professionnel. Et avec tout ce que ça implique derrière. Il y a trois choix à prendre. De ces trois choix dépendent énormément d'autres choix. Et donc, du coup, je pense que c'est un vrai discernement. Donc, faites-vous accompagner. Surtout que vous êtes resté souvent trop seul face avec vos difficultés. Alors que vraiment... L'Église a une expertise en accompagnement des personnes. Faites-vous accompagner. Là où vous êtes, proche de chez vous, etc. Il y a une vraie... voilà, parce que ça, c'est des motifs d'accompagnement, les questions. Et puis aussi, le fait d'appartenir à un groupe de réflexion. Hier, M. Grenet nous a parlé du MCC, hein, qui est le mouvement des quatre chrétiens, qui existe dans beaucoup de diocèses, pratiquement tous. Il y a des groupes de JP, les groupes de jeunes pros, qui n'existent pas toujours partout. Bon, il y a des groupes de réflexion sur le monde du travail et sur d'autres choses, et qui, à mon avis, sont autant de rampes qui vous aident aussi à prendre un chemin qui... Et je trouve qu'aujourd'hui, vous restez trop seul, quelque part. Peut-être parce que c'est un manque de confiance. Vous ne faites peut-être pas vraiment confiance à d'autres. Vous dites, ben voilà. Mais du coup, les décisions... sont parfois difficiles.